RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui, l'arbitre suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous pouvez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et le Ghana s'unissent de lutter contre la campagne négative de l'huile de palme. Le président est optimiste, le développement de l'infrastructure d'Asmat se déroule bien après KLB. Archandra présente un gros spilt au forum Indonésie-Norvège. PT Timah va investir 26 millions de dollars américains au Nigeria. Nusa Tenggara Oriental offre des investissements dans le sel, les algues, à Noskali et au Timor-Leste. Voici le journal complet. La campagne négative contre l'huile de palme brute est devenue l'une des principales questions discutées lors de la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, Retno Marsudi, et le vice-ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture de la République du Ghana, Kennedy Osei Nyarko. Cette réunion a eu lieu en marge de la mise en œuvre du Forum Indo-Africain 2018 à Nusa Dua, Bali, mercredi. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que lors de la réunion, le Ghana a exprimé sa volonté de travailler avec l'Indonésie pour gérer la campagne négative. L'Indonésie a également invité le Ghana à rejoindre dans le Conseil des pays producteurs d'huile de palme, CPOPC, comprenant des membres de l'Indonésie et de la Malaisie. Le Ghana, selon Mme Retno, a promis de considérer positivement l'invitation à rejoindre le CPOPC.
Kita sampaikan bahwa kelapa sawit saat ini sedang menghadapi banyak sekali kampanye negatif dan tidak ada cara lain.
Et nous disons que le palmier à huile est actuellement confronté à de nombreuses campagnes négatives et il n'y a pas d'autre moyen pour le pays producteur d'huile de palme de s'unir contre une campagne négative. Le Ghana s'est déclaré prêt à coopérer avec l'Indonésie pour gérer la campagne négative de palmier à l'huile. La ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, a ajouté que les deux ministres ont également discuté de la coopération du développement des infrastructures et l'intensification des relations bilatérales entre les deux pays. En outre, selon Mme Retno, le Ghana a demandé à l'Indonésie de participer au projet de la construction des logements au Ghana. Il a dit « Ceci a reçu une réponse d'une entreprise publique d'Indonésie ». En outre, le Ghana veut également augmenter sa représentation en Indonésie. Le Ghana a demandé une aide à l'Indonésie pour être en mesure de proposer des noms de candidats qui seront nommés à être le consul honoraire du Ghana pour l'Indonésie. Le président Joko Widodo est optimiste que le développement des infrastructures dans la région Stasmat, la province de la Papouasie, après les événements extraordinaires KLB de rougeole et de malnutrition se déroule bien. Cela a été dit par le président aux journalistes de l'aéroport international Moses Kilangin. La région de Mimika, la province de Papouasie, après avoir visité le district d'Asmat jeudi 12 avril. La page setcap.go.id a noté que le développement des infrastructures dans le district d'Asmat couvre le développement à court et moyen terme, tel que l'infrastructure d'eau potable, d'assainissement, de ponts, de réparation routière et de reconstruction de la nouvelle maison. Le gouvernement construit également 9 conteneurs pour l'eau brute. En ce qui concerne la nutrition des enfants, le président a déclaré qu'il avait ordonné aux régions d'Asmat de prêter une attention à la nutrition des enfants dans le district d'Asmat. Le vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales, Archandra Tahar, a présenté jeudi le programme de participation au bénéfice du secteur pétrolier et gazier ou Grossplit au Forum sur l'énergie entre l'Indonésie et la Norvège à Jakarta. Selon lui, le gouvernement indonésien et norvégien ont organisé l'atelier sur l'énergie entre l'Indonésie et la Norvège afin de renforcer la coopération énergétique entre les deux pays. Cette coopération a marqué le renforcement des relations dans le secteur de l'énergie entre l'Indonésie et la Norvège à travers la coopération entre le ministère de l'énergie et des ressources minérales et l'ambassade de Norvège à Jakarta. Archandra a dit que l'Indonésie connaît une croissance économique rapide. Le changement de paradigme de l'énergie en tant que produit à l'énergie, en tant que moteur de la croissance économique, doit être suivi de réformes dans l'industrie pétrolière et gazière. PT Timah Tbk va investir 26 millions de dollars américains ou l'équivalent de 356,2 milliards roupias pour réaliser l'expansion de cette entreprise au Nigeria. Le président directeur de PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, à Pangkal Pinang a déclaré jeudi qu'il était optimiste que la présence de PT Timah au Nigeria pourrait ouvrir d'autres formes de coopération, entre particuliers l'exploitation minière et l'exploration pour augmenter les réserves actuellement exploitées par l'industrie minière. Il a dit qu'il continuait à se concentrer les mesures stratégiques pour réaliser l'expansion de l'entreprise au Nigeria comme une forme de sérieux de l'Indonésie dans l'amélioration des relations économiques avec les pays africains. Nusa Tenggara Est a offert des opportunités d'investissement dans la production de sel et d'algues au cours d'une réunion trilatérale entre l'Indonésie, l'Australie et le Timor-Leste qui s'est tenu à Labuan Bajo, le district de l'ouest de Manggarai, les îles de Flores, jeudi le 12 avril. La province espérait que les deux pays voisins seraient intéressés à investir dans ces produits marins. Genève Wurgianto, chef du bureau des affaires maritimes et des pêches de Nusa Tenggara Est, a expliqué que Nusa Tenggara Est a un potentiel de production de sel considérable de plus de 60 000 hectares repartis dans diverses régions. La province comptait 60 000 hectares pour la saliculture et 51 870 hectares pour la culture des algues. Il a ajouté que le gouvernement central et régional encourage l'industrie du sel pour l'autosuffisance en sel national. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Condamner donc l'utilisation des armes chimiques en Syrie ». Le week-end dernier, la ville de Douma en Syrie était très triste. Des dizaines de civils, y compris des femmes et des enfants, ont été tués par des attaques d'armes chimiques. Les accusations contre les actes cruels étaient dirigées contre le régime de Bachar al-Assad. C'est certainement une transgression grave insupportable. De plus, des événements comme celui-ci ont été répétés pour la énième fois à plusieurs endroits en Syrie. Malheureusement, l'Organisation des Nations Unies, ONU, est incapable de poursuivre un projet de résolution lancé par les États-Unis et six autres pays pour mener une enquête indépendante sur l'utilisation d'armes chimiques parce que la Russie a renvoyé son veto. La Russie, qui a initialement soutenu les dirigeants en Syrie, a fait valoir que la résolution ne ferait que légitimer l'action armée américaine contre la Syrie. L'utilisation d'armes chimiques a une longue histoire. En raison de son impact vaste et meurtrière, après la Première Guerre mondiale, un certain nombre de pays dans le monde, à travers le protocole de Genève de 1925, interdit l'utilisation d'armes chimiques. Mais cet accord ne se déroule pas bien. L'histoire enregistrée, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et la Première Guerre du Golfe ont été encore colorées l'utilisation d'armes chimiques. L'accord interétatique a ensuite été mis à jour grâce à la Convention de 1992 sur les armes chimiques au CWC, signée par 188 pays. Cette convention est plus complète avec la création de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la Haye aux Pays-Bas en 1997. La question est la suivante, pourquoi les armes chimiques sont-elles encore utilisées par certains pays? Nous sommes bien conscients que le rôle des pays superpuissants est grand dans la mise en œuvre de tout l'accord multinational, parce qu'en réalité, la plupart des violations des accords sont précisément dû à leurs attitudes incohérentes. La mise en œuvre de l'accord dépend des intérêts des parties, surtout quand il s'agit d'avantages économiques. Par conséquent, si un événement nuit à son côté, c'est trop pour qu'il soit contre. D'un autre côté, si cela profite aux parties, elles sont unies pour les soutenir, les défendre et les protéger. Pendant ce temps, le pays en dehors du grand pays, le choix ne fait que participer à un groupe ou jouer en toute sécurité en émettant un simple critique. Dans le cas des armes chimiques, nous espérons que tous les pays se comporteront de la même manière, à savoir condamner et rejeter fermement son utilisation, détruire les armes qui lui appartiennent et, ensemble, sanctionner fermement toute partie qui viole l'accord. Cet espoir est également un élan pour l'ONU en tant qu'institution internationale qui peut protéger tous ses membres. Ce n'est pas seulement le silence sur les actions de certains pays ou la publication de déclarations normatives sans action réelle. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 13 avril. Le 13 avril 1975, la guerre civile au Liban commence. Le 13 avril 1975, une guerre civile au Liban a éclaté à la suite d'une attaque extrémiste chrétienne falangiste contre un autobus transportant des Palestiniens et en tuant 30 d'entre eux. À la suite de cette attaque, les musulmans et les nationalistes libanais se sont soulevés contre le groupe falangiste. Quelque temps plus tard, suite à l'attaque menée par ce groupe contre le camp de réfugiés palestiniens au Liban, les Palestiniens ont également pris part à la guerre. Cette guerre civile a été provoquée par le régime sioniste israélien dans le but que les musulmans libanais et les Palestiniens soient distraits du régime sioniste. La guerre civile au Liban s'est terminée en 1999 avec la signature de l'accord de Taïf par les parties hosties. Le 13 avril 1997, Tiger Woods est devenu le plus jeune golfeur de l'histoire à remporter le tournoi des maîtres. Tiger Woods est un fantastique tourne-disque de golf. Le 13 avril 1997, Tiger a remporté le tournoi des maîtres à l'âge de 21 ans et 3 mois et est devenu le plus jeune champion de l'histoire. Il a également remporté 4 titres majeurs successifs de US Open 2000 au Masters 2001. Cet événement s'appelle Tiger Slam car il n'a pas été gagné dans une saison. Le 13 avril 2013, l'avion Lion Air s'est écrasé dans les eaux de Bali. L'avion Lion Air s'est écrasé dans les eaux près de l'aéroport Ngurah Rai Denpasar Bali avant l'atterrissage le samedi 13 avril 2013 à 15h temps d'Indonésie centrale. Le Boeing 737-800NG se serait approché de la piste de l'aéroport mais est tombé dans les eaux et a provoqué la rupture de fuselage. Les autorités de l'aéroport ont confirmé que les 101 passagers et 7 membres d'équipage étaient en sécurité malgré plusieurs blessures. L'aéroport Ngurah Rai a été fermé environ une heure après l'accident afin de faciliter le processus d'évacuation. L'avion Boeing 737-800NG, utilisé par Lion, est le nouvel avion utilisé par la compagnie aérienne depuis 2012. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, pour le Buxiwak, nous vous présentons mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et l'Afrique ont un grand potentiel de se développer. L'Indonésie et l'Afrique continuent de maintenir de bonnes relations afin d'établir des partenariats face aux défis mondiaux. L'Indonésie et l'Afrique sont également deux pays qui ont un grand potentiel pour se développer et renforcer l'économie l'un de l'autre. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Yusuf Kalla lors de l'ouverture du Forum Indonésie-Afrique IAF à Bali, Nusa Dua Convention Center, mardi. Selon Yusuf Kalla, ce forum devient important pour les deux parties afin d'intensifier la coopération commerciale et économique. L'Indonésie et l'Afrique ont un grand potentiel. Le développement de la coopération avec l'Afrique est une priorité de la politique étrangère de l'Indonésie. Yusuf Kalla a confirmé, comme l'Afrique, l'Indonésie comprend le développement des infrastructures est très important pour que la croissance économique rapide soit ressentie par la population. Selon lui, la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique a un brillant avenir dans le domaine économique, en particulier dans le domaine du commerce et de l'investissement. Si l'Indonésie et l'Afrique réussissent à faire progresser cette coopération, elles peuvent montrer au monde que la coopération entre les pays en développement peut également être réalisée. Avec le capital des ressources humaines détenu par les deux régions en développement, les industries en Indonésie et en Afrique sont encouragées à progresser. Youssouf Kalla est sûr qu'avec plus de 400 millions de populations ouvrières en Afrique et en Indonésie, ainsi que la population productive, l'avenir économique des deux pays est très brillant. Le Forum Indonésie-Afrique 2018 mené par le gouvernement indonésien a enregistré un accord commercial de 586,56 millions de dollars américains entre l'Indonésie et plusieurs pays africains. L'accord commercial reflète une coopération économique concrète mutuellement bénéfique et marque le début de la collaboration et de la coopération pour renforcer la croissance économique entre l'Indonésie et l'Afrique. Cet accord d'affaires a été atteint dans plusieurs accords, entre autres, entre Exim Bank d'Indonésie et la Banque africaine des exportations et importations. L'Exim Bank d'Indonésie et Standard Chartered Bank, PT Wijaya Karya Uwika est le chef du cabinet du Niger. PT Timah et Top Watt Venture, Garuda Maintenance Facility, GMF, Aeroasia, Max Air et Ethiopian Airlines, PT International Trading Company et l'entreprise du Madagascar. Par ailleurs, le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolu Kita, a déclaré que l'Indonésie se concentrerait sur le commerce avec les grands pays africains peuplés tels que le Nigeria et le Kenya pour encourager les exportations indonésiennes vers l'Afrique. Il a déclaré que la valeur commerciale entre l'Indonésie et les pays africains devrait augmenter de 11% cette année. Pour atteindre cet objectif, le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolu Kita, a tenu une réunion bilatérale avec le Maroc et le Nigeria en marge du Forum Indonésie-Afrique 2018 à Nusa Dua, Bali, mardi. Le gouvernement a noté la valeur de commerce entre l'Afrique et l'Indonésie en 2017 a atteint 8,84 milliards de dollars américains. Ce nombre a augmenté de 15,25% par rapport aux réalisations de 2016. L'IAF est le premier événement organisé par le gouvernement indonésien en tant que plateforme pour encourager une coopération économique concrète entre l'Indonésie et l'Afrique. L'IAF est également en ligne avec l'encouragement du président Joko Widodo pour que l'Indonésie entre bientôt sur les marchés non traditionnels, notamment l'Afrique. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, voici donc le rappel du titre de l'actualité.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et le Ghana s'unissent de lutter contre la campagne négative de l'huile de palme. Le président est optimiste, le développement de l'infrastructure d'Asmat se déroule bien après KLB. Archandra présente un gros spill au forum Indonésie-Norvège. PT Timah va investir 26 millions de dollars américains au Nigeria. Nusa Tenggara Oriental offre des investissements dans le sel, les algues, Anoskali et au Timor-Leste.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Magazine culturel. Dans cette édition, je vais vous présenter le gâteau dongkal, une collation traditionnelle de Betawi. Vous pouvez écouter notre programme en streaming sur www.wnews.id ou bien une application de RRI Play sur votre Android. Jakarta comme une ville métropolitaine a beaucoup d'activités, y compris l'organisation de festivals au niveau national et international, entre autres le festival culinaire. Quand la ville célèbre son anniversaire, les citoyens peuvent facilement trouver une variété d'aliments et de boissons typiques de Jakarta. Aujourd'hui, la cuisine de Betawi est plus souvent trouvée uniquement dans le festival culturel. En tant que consommation quotidienne, ces aliments sont difficiles à trouver. Le développement de l'époque est devenu l'une des raisons pour lesquelles la cuisine traditionnelle n'est plus populaire. Bien que maintenant beaucoup de restaurants qui servent des plats locaux et traditionnels, mais beaucoup de vieux aliments qui ont commencé à disparaître. L'un des plats traditionnels indonésiens est dongkal, un gâteau traditionnel du peuple de Betawi. De nos jours, il n'est pas facile d'obtenir un gâteau qui à Jawa West est connu sous le nom dawuk. Mais à la périphérie de Jakarta, il y a encore quelques endroits qui offrent ce gâteau. Entre autres, il existe à la route Cipayung, Jembatan Serong, le district Cipayung, Depok, et dans la région de Sawangan, Depok. Le gâteau de dongkal fabriqué à partir de la farine de riz, le maïs, le sucre brun et saupoudré de noix de coco râpées. Ce gâteau est fait d'une manière traditionnelle, à savoir cuit à la vapeur en utilisant le conconique en bambou tissé. Pour faire ce gâteau, d'abord, la farine de riz doit être cuite à la vapeur jusqu'à la formation de caillots et ensuite ajouter le sagu, puis la pâte est insérée dans le cône conique en bambou tissé et ajouter le sucre brun qui a été coupé en tranches. La pâte est ensuite cuite à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit cuite. D'habitude, le gâteau dongkal est servi chaud sur une feuille de bananier avec une pincée de noix de coco râpée au-dessous. Le goût de ce gâteau est savoureux et douce parce que le sucre brun est légèrement fondu et la texture molle. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et un pour titre, connaître la saison avec Chongklap. La saison est l'une des diffusions majeures de l'année, généralement basée sur une large forme climatique. L'Indonésie, parce qu'elle est située sur les tropiques, la saison est seulement divisée en deux, à savoir la pluie et la sécheresse. C'est l'un des matériaux de leçon pour l'école primaire sur l'écosystème, la terre et la saison qui est enseignée dans la classe 6. Afin de faciliter les élèves de l'école primaire pour l'étude du sujet, on nécessite un outil d'aide à l'apprentissage. Pour cela, les étudiants de l'éducation des enseignants de l'école primaire de la faculté d'éducation de l'Université d'État de Yogyakarta font les médias d'apprentissage de connaître la saison en utilisant DACON, appelé DACOSIM, DACON Diffusion de la saison. Le Zé de DACON ou Tchonklak est l'un des plus anciens du patrimoine culturel. Ce zoo connaîtra des noms différents dans d'autres régions, mais ce n'est pas un problème tant que le jeu est joué de la même forme. Ce jeu ne peut être joué que par deux personnes avec face à face. Les deux peuvent correspondre en répandant des graines de tchonklak. Maharani Dwi, Redita Adriani, Hana Jihan, Ihti Shamudin, Diah Cipto et Nuril Alfi créent le DACOSIM dans le but que les étudiants soient capables de caractériser les conditions environnementales dans une saison particulière et de créer une histoire sur une condition dans une certaine zone indépendamment. Maharani Dwi a déclaré que les médias qu'ils avaient créés sont utilisés pour transmettre des informations sur la théorie des deux saisons en Indonésie et sa différence avec les quatre saisons dans l'hémisphère du Nord. Redita Andriani a ajouté, en plus de la théorie de la saison, on a également livré des connaissances sur la saison sèche et la pluie en Indonésie et son impact. Selon Hana Jihan, les jeux de DACOSIM sont comme les jeux de DACON en général. Comment jouer DACOSIM utilisé dans les groupes ou de groupes? Un groupe se compose de 5 étudiants et est joué alternativement par les membres du groupe. Chaque tour est joué par un membre du groupe et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu soit remplacé par le groupe adverse. Si le membre s'arrête au trou DACON qui contient apprenant, alors l'enfant doit prendre la carte de question qui a été fournie. Mais quand l'enfant s'arrête au trou de DACON qui dit « chante et danse », alors l'enfant doit chanter ou danser selon les ordres du groupe adverse. De plus, si les membres du groupe reçoivent une carte de question et sont capables de répondre correctement à la question, le groupe obtiendra une étoile. Le groupe est déclaré vainqueur si le groupe peut recueillir les plus grosses graines dans la grange et a également le plus d'étoiles. C'est du temps, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter les chansons de la région de Sumatra du Sud. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie que vous pouvez écouter par www.voinews.com. Ou par l'application de RRI Play et RRI World Service dans votre téléphone portable. Bon, chers amis, pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson de la région de Sumatra du Sud intitulée Mpe Mpe Lenger qui est chantée par Karel Simon. Bonne écoute!
Thank you. marem, masuk ke mulut, matonyo mejem, mertuo lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya teraso. Digoreng pake minyak kelapa, jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Oi Bece, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau bayarnya. Ah, kesini apa kau
jadi? Ayo Bece, siko-siko bae makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Chers amis, voilà la chanson intitulée Empek-empek lenjer, chanté par Karel Simon. Sumatera du Sud enong selemong célèbre pour le pont ampera, mais il a également une bonne et célèbre cuisine, c'est empek-empek. Il y a aussi plusieurs types de ce culinaire, ce sont empek-empek lenjer, empek-empek kapal selam, empek-empek kulit, et empek-empek adaan. Comme le titre, la chanson que nous venons d'écouter raconte de empek-empek lenjer. Elle décrit la forme de empek-empek lenjer qui est longue comme le bras. En plus, cette chanson parle aussi de la manière de cuisiner ce culinaire et de l'expression de la personne qui mange cette délicieuse nourriture. C'est une chanson heureuse interprétée par Simon Carrel. Les paroles de cette chanson disent aussi que quelqu'un qui voit ce culinaire, il voudrait l'essayer. Bon, chers amis, la suite. Écoutons une chanson de la région de Sumatra du Sud dont le titre est Sayang Selayak, chanté par Hera Sofian.
Thank you.
Voilà la chanson intitulée Sayang Selayak par Hera Sofiane. Cette chanson parle d'un homme qui vient de village en village comme des oiseaux qui se promènent à la recherche des sources de nourriture. Cette chanson est l'une des chansons pop régionales qui sont très populaires parmi le peuple de Sumatra du Sud. Si nous l'écoutons, nous pouvons savoir que la parole et la musique de cette chanson est influencée par la musique malaise. Bon, chers amis, nous terminons l'édition du magazine musical d'aujourd'hui en écoutant deux chansons intitulées « Ting Berdenting » par Karel Simon et « Ribu Ribu » par Hera Sofiane. Bonne écoute et à la prochaine!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.